Notre deuxième présentation s'intitule « Comment les réseaux créent un impact ». Our next presentation is titled « Networks making an impact ».
Alors, comment les réseaux créent un impact? On a deux conférenciers. Accueillons Madame Kimberly Buffett, Association des Coasters. Et nous avons parmi nous également Madame Marcela Ferrada Videla, C3S de la Basse-Côte Nord. Alors, je donne des fiches pour se rappeler du temps. Alors, je lui ai donné 5 minutes, 2 minutes et ensuite 0 pour me faire signe quand je m'approche de la fin de mon temps. Alors, je vais avoir des cues. Alors, voici d'où on vient, d'une région très isolée au Québec, en fait. On n'a pas de route. En fait, il y a 16 communautés. La plupart de ces communautés-là sont accessibles uniquement par avion. Alors, vous allez voir, dans ma présentation, j'ai des photos qui illustrent un peu la réalité des professionnels qui œuvrent dans cette région. Alors, c'est clair qu'il y a des défis. Il y a des défis majeurs. Alors, il faut être innovateur. Alors, sachez qu'on sort des balises ordinaires. Bon, c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors, l'association Coasters est née en 1989. C'est une des organisations anglophones les plus anciennes et elle vient de célébrer son 23e anniversaire, cette association. Alors, elle est très ancrée dans la communauté pour travailler pour la défense des droits des anglophones dans cette région. Alors, on a formé une table, la Education Network, le réseau d'éducation, il y a 2 ans. Et c'est une branche de notre table pour la coalition de la défense de la santé. Donc, Marcela, qui est là à côté de moi, est toute nouvelle. Ça fait juste 4 mois qu'elle est avec nous. Alors, on a le responsable des programmes pour les familles, pour les infirmiers, infirmières, responsable pour les intervenants à différents niveaux. Ensuite, on a le directeur d'éducation aux adultes pour les commissions scolaires qui sont présentes à la table, moi-même, et directeur des programmes de Coasters. Maintenant, les forces de notre réseau. Quand on s'est réunis pour formaliser les plans et le programme, bon, d'abord, il fallait asseoir autour de la table des gens qui étaient les preneurs de décision. Et on a eu la chance d'avoir justement ces décideurs qui s'assoient à la table avec nous, parce que c'était ça un des défis quand on travaille en communauté. C'est le laps de temps pour obtenir des réponses, des réactions. Donc, les directeurs étaient assis à la table et ça nous permettait de prendre des décisions très vite sur des questions qui étaient particulièrement urgentes. Ça, c'est une de nos forces, le fait que c'est des directeurs qui sont assis à la table. Alors, on comprend tous très bien quelles sont les problématiques. La plupart sont liées, justement, comme je vous disais avant, à l'isolement. Et on croit profondément dans les partenariats. On est convaincu que ça peut marcher entre les communautés, les institutions, qu'on peut promouvoir des changements. Et c'est vraiment le cœur de notre philosophie. On a un esprit ouvert. Et comme vous verrez dans ma présentation, on sort des sentiers battus pour améliorer l'éducation dans cette région. Et on est très engagé vis-à-vis de la durabilité de ce réseau. Quand on a vécu les années de transition, même à ce moment-là, on avait un manque de financement. Malgré ça, le réseau a continué à fonctionner. Les initiatives ont continué. On a trouvé des sources alternatives de financement pour garantir la formation. Et ensuite, McGill est de nouveau rentré dans le partenariat. Alors, dans le coin ici, vous voyez, ça, c'est notre service d'ambulance, voyez-vous? Parce qu'on a des skidoos qui se rendent dans les villages. Alors, il n'y a pas d'accès par route l'hiver, donc tout est en skidoo. Alors, c'est comme ça que vous iriez à l'hôpital pour amener vos patients. Alors, on a des répondants qui travaillent avec les infirmières et c'est notre réalité. Alors, dans la première phase, on a fait une évaluation avec un sondage avec toutes les infirmières parce qu'on voulait voir pourquoi est-ce qu'on avait un roulement si élevé, surtout parmi les infirmières. Alors, on a fait un sondage parmi les infirmières qui étaient là et celles qui avaient quitté. Pourquoi est-ce qu'elles avaient quitté? Quels étaient les défis? Qu'est-ce qui n'avait pas marché? Ce qu'on a constaté, c'est que dans la plupart des cas, elles disaient j'arrivais dans une région, je ne savais pas qu'il fallait que j'amène ça avec moi. Je n'étais pas organisée l'hiver pour l'épicerie et tout ça. Donc, beaucoup d'entre elles avaient affronté des défis vraiment qui étaient liés à la communauté. Et non pas au système de santé. Donc, il fallait mieux informer nos infirmières au départ. Après le sondage, il y a une équipe qui est arrivée et Brenda Edwards était avec nous. On a fait la première visite et c'était Luna qui travaillait pour McGill qui était là aussi. Donc, on a fait le tour de toutes les cliniques parce que c'est là qu'on rencontre les infirmières. Et si on ne les rencontre pas face à face, on n'est pas conscient des défis qu'elles doivent affronter au quotidien. Donc, pour Una, et vous allez voir sûrement d'autres photos, elle avait son mari qui était avec elle. Et on voyageait dans le skidoo. Et puis, poser la question, mais comment est-ce que vous vous retrouvez? Comment vous trouvez votre chemin? Et puis, la réponse était comme un peu quand on conduit un éléphant. Alors, ce premier voyage en skidoo était vraiment spécial. Alors, certaines des communautés, par exemple, n'avaient pas d'eau potable. Et quand Brenda est allée se laver les dents, par exemple, c'est écrit de ne pas boire de l'eau parce que ce n'était pas potable. Alors, c'est des choses auxquelles on ne pense pas, mais ces défis-là en posent d'autres aussi dans la vie au quotidien dans ces communautés. Donc, suite à ces tournées, à ces premiers sondages, il y a eu des développements. Donc, la première année avec McGill, c'était vraiment une année exploratoire et c'est ça qui a posé les bases, les fondements pour tout ce qu'on a fait à partir de ce moment-là. Et on a fait beaucoup de progrès. Donc, on a vraiment travaillé d'abord sur notre réseau éducation locale et ensuite sur notre plan de maintien en poste, qui a plusieurs volets. Alors, d'abord, comment est-ce qu'on peut attirer les personnes et comment est-ce qu'on peut les garder dans le réseau? Et donc, on a une vision qui est très, très vaste. Donc, depuis les plus jeunes jusqu'à la retraite, pratiquement. Et ensuite, on espère qu'ils pourront rester dans cette région-là, même après la retraite. Donc, on a le réseau d'éducation locale qui travaille en équipe avec nous. Puis, pendant la dernière année, on a formé un réseau d'éducation, mais au niveau régional. Et on partage nos meilleures pratiques, on partage les suggestions, on essaie d'améliorer la coopération entre les établissements de la Côte-Nord, en termes de formation, en fait. On essaie de voir comment est-ce qu'on peut mieux arrimer nos atouts. Et puis, on a un comité d'accès. Alors, étant donné que les établissements reçoivent des demandes, nous on reçoit des demandes aussi de notre côté, on souhaite intégrer le tout. On ne veut pas que l'hôpital fasse leurs choses de façon isolée et nous de notre côté. Donc ces applications, ces formulaires ou ces demandes sont recueillies tous ensemble et gérées tous ensemble. Donc le canal de communication avec l'agence doit être, avec les établissements, doit être évidemment bon pour que ça marche. Alors ça, c'est la limite de vitesse sur la route pour les skidoo. Et ça, c'est le bureau où on avait été en premier lieu. Et il y avait quelqu'un qui était avec nous pour les langues officielles ce jour-là. Et il était comme dans sa crise de la quarantaine ou cinquantaine. On s'est mis à parler avec lui, donc et il nous disait que comme nous, on a nos crises et on se pose le problème de savoir quel auto choisir à 40, 50 ans. Pour lui, c'était les skidoo qu'il devait choisir, entre quel modèle. Alors ici, un des villages, c'est une île, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas d'autre accès que par hélicoptère ou par bateau. Alors là, on voit les personnes donc à l'extérieur de la clinique, juste au site où l'hélicoptère a atterri. Et ça, c'est quand vous descendez de la colline après Sainte-Augustine. Donc, c'était des photos qu'on a prises pendant notre voyage, notre visite. Dans la première phase, on a voulu évaluer les centres de santé à l'interne. Donc, quels étaient les outils pour engager, choisir les personnes. Et puis, quelle était la capacité de communiquer ce qu'on cherchait en termes de profil d'emploi. Donc, on a restructuré le site web d'abord, parce que ce qu'on avait constaté suite au sondage avec les infirmières, c'est qu'elles n'avaient aucune idée d'où est-ce qu'elles s'en allaient. Donc, on a filmé les structures, les cliniques. Donc, si vous allez à Sheffrey, vous pouvez cliquer sur le site web et faire comme un tour virtuel des sites où vous allez être. Donc, vous saurez à quoi vous attendre. C'est ce genre d'outil qu'on a développé. Et puis, avec les guides communautaires, on a reçu beaucoup d'aide. Par exemple, on a essayé de répertorier la liste des, par exemple, des magasins, des épiceries, des centres de la petite enfance, etc. Alors, c'est comme ça qu'on a développé tous ces outils. Et on a développé également des paquets pour le recrutement. Donc, dépendamment du village où la personne s'en va, il y a des paquets disponibles. Donc, avec des photos, du matériel d'intégration et de l'information. Et on travaille également sur un système de parrainage. Donc, si vous vous rendez dans une communauté, il y a quelqu'un qui va vous accueillir, vous amener à souper, vous faire faire le tour. Parce que la plupart de ces villages aussi n'ont pas de restaurant. Alors, ça, comme vous voyez dans la photo, c'est notre mascotte. Alors, notre idée, c'était vraiment de voir tout le cursus, c'est-à-dire depuis l'assistance ou les soins aux enfants jusqu'aux personnes âgées. Donc, c'est très important de faire comprendre comment ça marche du début à la fin pour assurer la rétention aussi. Alors, on commençait par le système d'éducation. Il y a deux programmes qui sont intégrés dans l'école primaire et secondaire. Donc, on a ce qu'on appelle Elementary Guidance Approach. Et puis, pour l'école secondaire, également un programme équivalent. Donc, on a formé des enseignants pour... en fait, on les a envoyés à Montréal pour des formations, aller visiter les établissements de services sociaux. Et on organise également des expositions, des foires aux emplois pour que les personnes sachent et plus d'informations sur le genre d'emploi qu'on offre dans ces régions. Et puis le programme de bourse aussi, avec qui on a travaillé avec McGill. On a fait le lancement du programme hier soir. Donc il y a eu 16 demandes, 16 candidats, et c'est très encourageant. Alors, pour la petite enfance, on a créé ce qu'on appelle la mascotte McGill, qui a un nom d'ailleurs, c'est Litou, son nom. Et donc, il s'en va participer au carnaval, il est à tous les événements. La mascotte, elle est à tous les événements de carnaval, des événements sociaux. Et donc, c'est pour nous donner de la visibilité. Donc, c'est très important de faire la promotion également au niveau préscolaire. Donc, la mascotte arrive, on fait la promotion du système, mais on fait venir également des médecins pour rencontrer les jeunes, les enfants dans ce cas-là. Donc, ça va vraiment de zéro à tous les niveaux de l'éducation, en fait, partant de très jeune âge. Pour ce qui est de l'internat, on a eu des résidents, 19 résidents qu'on a reçus. Alors, on a essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait les placer dans les cliniques et les suivre à distance, ce qui n'était pas toujours facile, mais on a développé des approches innovatrices, encore une fois. Et puis, on a mis en œuvre un système durable pour permettre aux professionnels de développer, de préserver leurs compétences professionnelles. Parce que souvent, ce qui se passait, c'est qu'ils se sentaient isolés dans les cliniques et la formation ne se donnait pas sur base assez constante. Alors, avec le C3S, pendant l'année où on n'avait pas de financement de McGill, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un partenariat avec la Fondation du Montreal Children et on a organiser des programmes à distance à travers des systèmes de vidéoconférence pour les infirmières. Donc ça a permis de libérer du temps aussi. Donc le C3S a libéré les infirmières pour qu'elles puissent suivre ces formations. Et cette formation est encore en cours. Et on a créé des partenariats avec les communautés autochtones pour étendre cela, pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser ce modèle-là et le développer davantage, l'étendre en fait. Et ça, ça va se faire dans les deux prochaines années. On a créé un système également de stage, de placement. En fait, c'est des personnes qui ont déjà gradué, mais d'après la philosophie du C3S, on ne peut pas engager les personnes qui n'ont pas d'expérience à cause du fait que c'est des territoires isolés. Donc, il y a un projet spécial qu'on a réalisé avec McGill où, en fait, on recevait ces personnes qui avaient gradué pour travailler dans ces établissements, et c'est en partenariat avec le C3S, c'est-il, pour que les jeunes puissent aller dans les territoires. Et c'est un programme qui a très bien marché. Ça nous a permis d'engager des travailleurs sociaux, des infirmières, et de les placer donc, dans la région. Donc ça, c'est encore un programme innovateur qui nous a permis de dépasser nos défis. Parce que le problème, c'est que si on les envoyait ailleurs, ils finissaient par rester là-bas et ne pas revenir. Alors on a développé ça sur place. Et puis, les municipalités régionales de compte ont développé des conditions favorables pour retenir les personnes. Donc, on leur expliquait comment fonctionnaient les structures, quels étaient les services, on les emmenait même faire de la pêche. Donc, on a vraiment travaillé en étroite collaboration avec la municipalité pour que le personnel ne se sente pas isolé une fois qu'il se rendait dans les villages. Et dans le coin, vous voyez des photos, des structures d'hébergement du C3S, parce que quand vous êtes engagé dans des régions éloignées comme ça, on vous fournit également l'hébergement. Donc ici, on voit Sheffrey. Et puis, autre chose que fournit le C3S, dans le cadre de notre partenariat, c'est que les stagiaires également sont hébergés, ceux qui sont en internat aussi. Donc, ça, c'est une grosse contribution de leur part. Alors ici, au milieu, on voit l'infirmière, la seule de la communauté, une communauté de 60 personnes, donc très isolée, et c'est la seule infirmière. Donc c'est elle qui fait partie du programme de formation à distance pour les infirmières. Ici, une autre de nos formations, avec les nutritionnistes, sur les cuisines communautaires, et donc là, on a traduit les programmes du français à l'anglais également pour faire participer les différents membres de la communauté intéressés à ce programme. Alors, le plan de maintien en poste, qui est vraiment l'élément clé, donne aux partenaires une bonne idée de comment on fonctionne, qui on est et qui est responsable des initiatives, c'est-à-dire qui va être en charge de certaines initiatives et qui d'autres. Et quand on fait du recrutement et la rétention, ce qui est très important, c'est vraiment initialement le recrutement. Donc, on fait très attention aux premières phases de recrutement. Ensuite, on explique quand il y a des activités, où est-ce qu'on s'en va et quand ces initiatives vont se mettre en œuvre. Et puis, on pose des questions aussi sur pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi est-ce qu'on a décidé de rester, et donc pour motiver. Et puis, l'expérience, c'est sûr qu'il y a eu des défis, des gros défis, souvent, des obstacles. C'est formidable de travailler avec des directeurs, mais d'autre part, c'est des personnes qui sont très occupées. Alors, il faut être accommodant quand on essaie d'organiser les rencontres ou les campagnes. Il faut être souple pour essayer d'avoir tout le monde autour de la table. Mais une fois qu'on est tous ensemble, ça bouge et ça bouge vite. Et on a fait vraiment des gros pas en avant, des grands succès. Alors, Quand on a commencé dans le secteur de l'éducation des adultes, il y avait peut-être 10-15 personnes. L'an dernier, on avait une centaine d'étudiants qui ont gradué du programme pour l'éducation des adultes, surtout dans le domaine de la santé. Donc, vraiment un gros bond, grosse amélioration. Et donc, il y a maintenant des infirmières, des personnes qui travaillent avec personnes âgées. Donc, c'est incroyable l'impact que ce programme a eu. Juste la formation dans les cliniques, de voir comment ça a évolué et les jeunes qui étaient motivés, ça a amené vraiment à des résultats extraordinaires. Alors, pour plus d'informations, vous pouvez certainement me contacter. Et voilà, ça c'est une photo, une illustration de notre région.